parlait à table du fait qu'on avait beaucoup symbolisé ce matin et qu'on allait parler de choses plus terre à terre cet après-midi. Et moi, j'ai besoin des deux, en fait. Hein, je passe mon temps à faire l'aller-retour entre le réel et la symbolisation qui n'est qu'une une expression du réel à travers une symbolisation, un sens qu'on donne. Et ce que je vois, c'est que chez les personnes que j'accompagne, c'est important de mettre du sens. Et plus moi j'en mets, et plus je les aide aussi à prendre de la distance avec les situations. Parce que très souvent, on est tellement pris dans les situations qu'on n'arrive plus à s'en extraire. Donc, je vais vous parler un petit peu de la démarche de nature humaine à travers à la fois l'action et la symbolisation. Et puis, vous donner quelques exemples pour vous montrer comment justement on permet de passer à l'action malgré toutes les résistances qu'on peut rencontrer. Donc, l'idée centrale qui est la mienne, c'est que le changement, est, même si on le connaît à travers sa mécanique psychologique, sociologique, anthropologique, culturelle, si on la connaît de façon objective, ça reste un profond mystère. Et plus j'ai conscience de ce mystère en tant qu'accompagnante, et plus je suis en capacité d'accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand on a une connaissance empirique d'un système, d'un processus, le changement en lui-même est tellement organique, il nous échappe tellement en partie, il est tellement à la fois individuel, collectif, et très souvent, on ne peut pas, il y a tellement de rouages en fait, qui interviennent au même moment qu'on ne peut jamais dire en fait, que les choses vont se passer telles qu'on le veut. Donc, les choses vont passer telles qu'on le veut, c'est ça qu'il faut, c'est le premier sacrifice, je dirais, à faire. J'ai listé un petit peu, là, en entendant les passionnants échanges de ce matin, déjà, faire le sacrifice de l'idée qu'on a du changement, même quand on le connaît, et de la façon dont ça va se passer. C'est intéressant, parce que comme j'accompagne, justement, des techniciens, des ingénieurs, des chargés de mission qui ont vraiment une grande connaissance de sujets sur lesquels ils interviennent, que ce soit l'air, l'eau, etc. Et j'aime accompagner ces gens-là parce qu'il y a une passion derrière un métier. Donc c'est des gens qui ont vraiment une connaissance pratique, experte en fait, du domaine dans lequel ils interviennent. Ils savent quel changement opérer pour que ça se passe mieux. Et quand on est un conseiller agricole sur l'agriculture bio, on a des conseils à donner, on sait. Par contre, la façon dont ça va se mettre en place, le temps du changement nous échappe complètement. Et c'est là où je parle de mystère, en fait. Et c'est cette part de mystère, quand on l'accepte complètement, on devient puissant. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, voilà, je pars de cette image. Alors, moi, je suis formée à la psychologie humaniste, qui est un courant. On a parlé ce matin de la psychologie rationnelle, on connaît aussi la psychologie comportementale. Bon, il y a d'autres mouvements qui se sont construits au fil des décennies. Moi, c'est la psychologie humaniste. Alors, je vais revenir sur le sujet. Mais avant, j'aimerais dire que moi, ce qui m'intéresse, donc l'iceberg, c'est ce qui représente en fait nos comportements. Donc, le dessus de l'iceberg, ce sont toutes les actions, les process qu'on a mis en place pour vivre en société et qui posent problème à l'environnement et à la société en général, et toutes les solutions pratiques, techniques qu'on connaît et qu'on va mettre en œuvre. Okay? Et en dessous, ce sont toutes les raisons, conscientes ou inconscientes, qui ont fait que la société actuelle a fait des choix qui sont problématiques ou fait des choix qui ne le sont plus. Okay? Alors c'est intéressant parce qu'ici on a... c'est à la fois des freins au changement et ce sont des moteurs en changement. Donc, si on prend par exemple la peur et les manques, si on construit sur une société basée sur la peur de manquer ou la peur de manquer de sécurité, c'est une société en fait qui se projette, alors soit dans une réalité, il n'y a plus à manger, c'est la guerre, etc., soit éviter de ne plus avoir à manger, éviter des guerres, éviter, voilà. Donc, on est dans une société qui va beaucoup agir à partir de éviter des situations qui sont mauvaises pour l'individu ou le collectif. Okay? Et pour les mêmes raisons, ces peurs et ces manques vont être des freins au changement. Parce qu'ils viennent à l'encontre d'un processus qui a pour vocation de sécuriser une société, d'éviter des peurs, d'éviter des souffrances. Okay? Alors, j'ai travaillé avec l'ADEME justement sur la question de la consommation durable, avec cette question qu'on m'a amenée, que je trouvais passionnant, quelle est la part des besoins ? C'est quand même génial comme sujet, quelle est la part de besoin ? Je reviendrai aussi sur cette notion de besoin de façon plus distincte tout à l'heure, mais voilà, les besoins. Est-ce qu'on est vraiment conscient des besoins ? Je parlais de manque tout à l'heure. Si on est sur une société qui a tendance à mettre plutôt en valeur le fait de combler des manques supposés ou réels, on va être plutôt dans une action qui va avoir pour objectif de combler un manque. Et c'est là qu'on rentre dans un mécanisme où on ne prend plus en compte d'autres paramètres qui sont le fait, par exemple, de conserver des conditions de vie qui sont suffisantes à l'heure. Alors, j'ai mis en exergue l'étude de Karine Weiss, qui est une psychosociologue de l'environnement, qui est allée voir des agriculteurs et qui, avec deux ou trois scientifiques, ils ont fait des carottages sur un certain nombre d'exploitations. Et devant l'agriculteur ou l'agricultrice qui était présente, ils ont fait l'étude scientifique pour savoir le taux de pollution du terrain. Et ils ont regardé et ils ont dit, ah, bah, c'est intéressant, sur X exploitation, c'est pollué à 30%. Et ils ont regardé la réaction de l'agriculteur. Et dans à peu près 70, peut-être 80% des cas, l'agriculteur a dit « c'est pas pollué chez moi ». Alors vous pouvez dire « mais cette personne est de mauvaise foi » ou alors « il est fou ». Enfin, généralement, c'est ce qu'on vous dit quand même. Hein. Une personne qui a là des épreuves scientifiques et il les met en cause. Pas du tout. Alors, si on se met du point de vue de la sociologie, on va s'intéresser à des données objectives. On va s'intéresser de savoir tous les agriculteurs qui ont considéré que leur terrain n'était pas pollué, quel est leur âge, d'où vient leur exploitation, est-ce qu'ils en ont hérité, est-ce qu'ils se sont installés plus tardivement, est-ce qu'ils sont mariés ou en divorce, est-ce qu'ils ont des dettes. Voilà, ça, c'est des informations très intéressantes. On sait que le taux d'endettement des agriculteurs est très important. Et ça, c'est un frein au changement. Que vous êtes dans une dynamique de rembourser vos prêts, vous n'êtes pas dans une dynamique de changer complètement votre exploitation pour devenir écolo. On est d'accord. Donc, si vous prenez les données psychologiques qui sont plus subjectives, je dirais, donc là, on va s'intéresser à savoir effectivement le niveau d'endettement, quel niveau de stress ça va créer chez la personne. Est-ce qu'il est en divorce, il est en difficulté affective et familiale. Les agriculteurs considèrent qu'elle est dans le bio, c'est se couper de sa famille et de son réseau professionnel. Donc, imaginez. Oui. Donc, ces données sont importantes, elles sont intéressantes. Alors, la psychologie humaniste, du coup, j'y reviens, la psychologie humaniste va tenir compte de tout ça. C'est-à-dire qu'elle va se dire, oui, les personnes ont des conditionnements, elles ont des contraintes, elles ont des résistances. Néanmoins, lorsqu'on place la personne dans un contexte très particulier d'écoute, de relation et de confiance, on va l'aider à avoir plus de capacité à envisager le changement pour elle-même. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ma pratique professionnelle, tout en ayant conscience de ça, et on va voir que je l'utilise aussi, hein, qu'on peut l'utiliser vraiment de façon très concrète, on va déjà apprendre à être en capacité d'écouter la personne, son contexte, ses priorités, ses contraintes, de façon à lui permettre de sortir de sa difficulté pour avoir un regard plus large et se projeter dans le changement. Okay. Donc ce qu'on considère aussi, c'est que la personne est maître de son changement. Vous ne pouvez pas vouloir qu'une personne change. Si vous voulez qu'une personne change, vous avez déjà une idée de changement, vous avez déjà un projet. Et vous vous percutez à sa propre histoire. Vous vous percutez à la perception qu'elle a d'elle-même par rapport au sujet. Donc, vous pouvez créer plus de contraintes que d'opportunités de changement. Donc ça, c'est la deuxième règle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand je propose, en fait... Ah, il voilà, le fameux. Quand je propose à des experts de l'environnement, justement, de tenir compte de ça, je ne leur dis pas « Vous allez tout changer et vous n'avez rien compris ». Évidemment que non. Mais c'est « Vous êtes des experts ». Ce que je vous propose, c'est d'arriver avec le même bagage d'expertise, mais d'accepter que l'autre, l'interlocuteur, celui dont vous accompagnez le changement, tient dans ses mains une clé majeure de changement, qui est la mise en œuvre du projet, à la fois dans sa temporalité, mais aussi dans sa façon de procéder, le process qu'il va choisir. Et peut-être que votre plan d'action, il va être tout renversé. Voilà. J'ai un client qui m'a demandé récemment de les accompagner sur la transformation des deux directions, ensuite sur le modèle managérial de l'équipe de directeur, et ensuite sur les process projets, la façon de mettre en œuvre les projets. Et j'ai dit, on inverse tout. On commence par la base, après les managers, après les directions. Et ça, c'est un changement de cadre, en fait. C'est vraiment cette idée que, ok, on va faire tout ce que vous m'avez demandé de faire, mais on va le faire à l'anglais. Parce que comme ça, vous allez avoir tout ce que vous vouliez, c'est-à-dire l'autonomie des salariés, qui était quand même leur objectif central. Okay ? Donc l'idée, c'est... Alors moi, j'ai été beaucoup dans cette idée qu'il fallait changer le monde. Je me suis formée au droit de l'environnement, je me suis formée au droit pénal international, j'ai travaillé à l'ONU parce que je me disais que c'était là que ça se passait, je travaillais pour le ministre parce que je me disais que c'était là que ça se passait. Et en fait, au fil du temps, ça m'a permis aussi de voir mes propres moteurs à l'action, l'impuissance à partir de laquelle j'agissais, le sentiment d'injustice. Et d'explorer ça m'a permis de me dire, mais je pense qu'il faut être plus modeste que ça, parce que de fait, en tant qu'individu, je n'ai pas un pouvoir immense non plus. Et donc, je propose des outils qui sont assez modestes, finalement. Qui sont simplement une posture d'écoute un peu particulière, qui va permettre, en fait, d'avoir une vraie relation avec le partenaire, de vraiment connaître sa problématique. Je disais tout à l'heure que... souvent, alors, c'est ce que m'apportent les ingénieurs, les professionnels de l'environnement, quand ils vont voir un partenaire, donc je prends par exemple le projet Ecofito, vous connaissez la loi Ecofito, qui est sortie il y a quelques années. Et donc les agents qui sont en charge de la protection des cours d'eau, la protection des captages en eau potable, sont allés voir les maires pour leur expliquer la loi et ce qu'il fallait faire. Et ils m'ont tous dit, le problème c'est que quand vous parlez comme ça à un maire, tout de suite il va vous raconter toutes ses contraintes. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une personne en face de nous qui est beaucoup dans la contrainte ? Eh bien, on va surenchérir dans les solutions, dans l'argumentation, et du coup, on argumente. Et en gros, au bout du compte, ça peut tout à fait fonctionner, mais très souvent, ce qu'ils observent, c'est que ça ne fonctionne pas. Et alors, moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut, dans la réalité, dans 80% des cas, une personne, même si elle a envie de changer, elle va voir la contrainte. Elle ne va pas voir l'opportunité. Donc, si elle est en phase de contrainte, il faut l'aider à clarifier sa contrainte. Alors, c'est contre-intuitif, je le sais, mais si vous aidez une personne à clarifier sa contrainte, elle se sent entendue, écoutée. Et vous ne faites pas ça pour la manipuler du tout, vous faites ça parce que vous avez besoin de connaître exactement son contexte et sa situation. Et tant que vous ne connaissez pas ses contraintes, vraiment, vraiment, eh bien, d'une part, vous ne saurez pas exactement toutes les solutions à laquelle il faut réfléchir ensemble, mais en plus, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante, qui est celle des opportunités. Parce que la personne, constamment, va revenir à la contrainte. Elle fait ça, constamment. Vous allez dire, oui, mais il y a ça aussi qui est bien. Ah oui, mais non. Oui, mais non. Donc, il y a eu une situation où, en fait, ils ont carrément décidé de dire, ok, ben, on va dire, très bien, vous êtes en train de me parler de toutes vos contraintes, c'est important, on va les lister sur un paperwork, comme ça tout le monde va les voir. Voilà. Mais après, on ira voir aussi tout ce que ça va être positif, tout ce qu'il va y avoir de positif. Et puis après, on va essayer de trouver des solutions, voir s'il y a des opportunités qui solutionnent les contraintes, voir s'il y a des contraintes qui annulent des opportunités. On va jouer comme ça avec tout ça, avec toute cette matière. Voilà. Ça, c'est l'écoute. Ça, c'est accompagner. Ça permet de connaître le partenaire, ça permet de créer une relation. Beaucoup aussi de professionnels de l'environnement témoignent du fait que plus la relation est de long terme, plus il y a de la confiance et plus il se passe des choses. Donc ça, c'est intéressant. Donc la relation, le cadre relationnel devient fondamental. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être pro. Moi, j'invite toujours à aider les personnes à affiner leur objectif. Soyez clairs sur les résultats que vous attendez. Vous avez un projet de changement. Soyez clair sur le fait qu'il y a un espace pour réorganiser ce plan d'action. Okay ? C'est une co-élaboration. J'y reviendrai. Donc la résistance, je viens d'en parler, sur la loi Ecofito. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent on va travailler, on parlait que, du fait que c'est intéressant aussi se changer soi. Bon, moi, je ne vais pas très très loin là-dedans. J'aide les personnes à retrouver une posture qui est vraiment confortable, donc il y a un vrai changement, il y a un changement de regard. Après, souvent, par exemple, je propose de mieux réagir aux résistances. Voilà. De ne pas se mettre plutôt en personne, de ne pas prendre personnellement les choses. Voilà, il y a une personne qui est en difficulté, vous êtes là pour l'aider. Hein. Donc c'est un exercice très amusant à faire, vraiment, de réagir aux résistances. Et c'est assez puissant, parce que du coup, on devient beaucoup plus ouvert à la difficulté. La motivation, on l'a dit, hein, motivation, c'est la mise en mouvement. C'est ce qui met en mouvement. Très souvent, je suis très... très intriguée par le fait que les professionnels que j'accompagne ne connaissent pas vraiment les motivations des partenaires. En général, on me dit bah, c'est l'argent. Parce que comme j'accompagne des agences d'État qui donnent de l'argent, hein, qui ont aussi cette fonction d'aide, elles sont perçues comme ça, croient-elles ? Peut-être à raison, mais peut-être à tort. Et très souvent, c'est vrai, quand on creuse la question des motivations, il y a des choses qui sont complètement inattendues qui sortent. Et ce n'est pas forcément des motivations qu'elles... ils avaient pensé, hein, mais c'est des motivations qui peuvent tout changer. Donc la clarification des motivations en tant que telle, j'y reviendrai tout à l'heure aussi, c'est une stratégie. Alors on a parlé, je crois que c'est vous hein, qui avez parlé de ça tout à l'heure, effectivement le fait que le changement est un processus, hein, c'est, le changement n'est pas le... et ça c'est fondamental. Ce n'est pas le passage d'un point A à un point B. Hein. C'est plutôt un glissement avec une évolution et des cycles d'évolution. Et j'ai parlé tout à l'heure du fait de faire le sacrifice aussi, hein, de l'idée du changement et notamment de sa temporalité. Et ça, je sais que c'est un point qui coince vraiment. Parce que ces personnes, ces agences, elles ont des objectifs qui sont inscrits dans le temps par rapport à des budgets à débloquer. Et ce qui est très, très, je dirais, presque pas ambivalent, mais paradoxal, hein, c'est que depuis 30 ans, on aimerait bien trouver l'action qui fasse changer tout le monde tout de suite. Et on fait ça depuis 30 ans. Et moi, je dis, bah oui, mais si vous aviez fait juste des petits pas depuis 30 ans, ben, ça aurait été... Alors, bien sûr, ces petits pas, ils se font. Il faut les reconnaître aussi. Mais c'est une perspective qui est un peu différente, se dire... plutôt que de se dire, voilà, on va faire très vite quelque chose de grande envergure, parce qu'il y a cette tentative de vouloir encore sauver le monde, changer très vite, parce qu'on est vraiment dans l'urgence. En fait, les petits pas sont aussi inscrits dans la même urgence, mais au moins ils se font. Hein, il n'y a pas ce blocage soudain du trop faire en si peu de temps, qui nous tétanise en fait. Hein. Et très souvent, je suis avec des entreprises qui me disent « Ah, mais on a fait un énorme audit, on a dépensé 150 000 euros, on a un plan d'action merveilleux. » Je regarde, bah oui, dis-donc, c'est ambitieux quand même. Et on est coincé. Et alors on me dit « Oui, c'est la direction, mais non, c'est l'autre et tout. » Puis je dis « Bah, ouais, mais bon, c'est ambitieux. » Donc oui, c'est ambitieux, mais est-ce qu'on pourrait l'inscrire sur 20 ans ou sur 10 ans ou, voilà. Une temporalité, en fait, qui fait que tout d'un coup, ça devient faisable. Le même plan d'action, mais faisable. Donc le petit pas, alors ça ramène à une phrase que vous avez dite tout à l'heure, Sylvain. Déplacer une montagne, c'est déplacer les petites pierres. Vous avez parlé des éco-gestes. Voilà, vous avez parlé des éco-gestes hein, qui sont réels. Mmh. Mais pour moi, c'est aussi au-delà de l'éco-geste, le plan Mouse qui se fait par petits pas. En fait. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas passer à l'action parce que le plan d'action est trop énorme. Et ça, c'est une vraie stratégie que de trouver la porte d'entrée qui va faire la différence. Le petit pas qui n'est pas ambitieux, et ça je sais, hein, pour l'avoir rencontré dans les agences que j'accompagne, que c'est déstabilisant parce qu'une agence, elle va dire bah, « Non, mais moi, j'ai que ça, j'ai pas ça, j'ai vraiment que ça. Bah, » oui, et puis l'entreprise, elle dit « Bah, non. » Voilà. Ok, bah, alors on garde la même ambition, on la met juste derrière et on prend le chemin. Et quand on fait un petit pas, après, on peut faire le deuxième. Voilà. C'est une façon de se projeter, en fait, dans l'action qui est différente. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on envisage le changement sur cette temporalité-là, on comprend que même une personne qui qui passe de pré-contemplatif, c'est-à-dire négation du changement, alors en général, soit parce qu'il ne peut pas tenir compte de la réalité, soit parce qu'il considère que son propre comportement n'est pas un problème. Tant que vous considérez que votre comportement n'est pas un problème, vous ne pouvez pas changer. Donc, cette personne, elle va glisser vers, grâce aux grandes campagnes de sensibilisation, grâce au fait qu'il y a des trames, qu'il y a des vélos, elle va glisser vers l'étape suivante qui est la contemplation. La contemplation, c'est-à-dire, ah ouais, je suis peut-être concernée par le changement. Je n'ai pas décidé de changer, mais je suis peut-être concernée. Donc là, on est déjà dans le changement, même si on n'est pas passé à l'action. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se focaliser que sur les personnes qui passent à l'action. Souvent on dit, ah oui, mais on attire que des personnes qui ont décidé de passer à l'action. Bah, c'est normal. Vous attirez les personnes qui ont besoin de vous. Parce qu'une personne qui est en phase de pré-contemplation et de contemplation, elle n'a pas besoin d'informations techniques, elle n'est pas en capacité, elle n'est pas à ce stade. Le pré-contemplatif, il a besoin de changer son imaginaire par rapport à lui-même, comment il se situe dans la situation écologique, quand il a à peine conscience ou alors qu'il évacue constamment. Le contemplatif, qui est beaucoup dans sa peur du changement, ses habitudes, ses contraintes. Donc, il veut bien changer, mais il ne sait pas comment faire. Et puis, il est coincé dans toute cette difficulté. Il a besoin d'être aidé dans le fait de dépasser ça. Et puis, la personne qui est en préparation d'action, elle a besoin d'informations techniques. Ah, ben ça y est, on y est. Oui. Alors, cette personne, elle va dans les salons, elle lit les guides pratiques de l'ADEME. Elle va chercher de l'information. Donc là, tout d'un coup, tous ces bouquins, ils sont faits pour elle. Ils ne sont pas faits pour les gens. Vous voyez ? Donc là, le changement, il glisse. Et la personne qui est dans l'action, elle a énormément besoin d'être accompagnée parce que c'est l'étape la plus fragile, c'est-à-dire celle où elle peut revenir dans ses habitudes. Si vous vous demandez, ça c'est du vécu, j'ai accompagné une équipe qui est en charge des vélos à Chambéry. Et ils avaient décidé en fait d'accompagner les personnes demandeuses d'emploi qui n'avaient pas les moyens d'avoir une voiture à se déplacer avec les vélos. Ils ont fait ça en automne. Sachant que, ben, ça y est, on a eu les premières neiges. Donc, faire du. Vous voyez, c'est un peu bête, quoi. Mais si vous faites ça au printemps, vous avez une plus grande marge d'expérimentation. Vous voyez ? Donc, plus la possibilité que les habitudes anciennes soient remplacées par les habitudes nouvelles. Donc, après l'action, ce qu'on appelle en fait le passage à l'action, le changement en lui-même, il va s'inscrire dans passage à l'action, changement de comportement par rapport à l'ancien comportement, jusqu'à que l'ancien comportement disparaisse et soit remplacé par le nouveau comportement qui devienne une habitude.